Natal. J'ai réduit totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la technique de maîtrise des gens, trouver une solution par rapport à ça.
Bon début de semaine à tous et merci d'écouter Radio Okapi qui vous accorde à nouveau la parole. Le gouvernement congolais ne prend plus en charge les frais de tenue des comptes salaires des fonctionnaires. Ces derniers doivent désormais supporter eux-mêmes la tenue de leurs comptes. Cependant, cette décision est désapprouvée par plusieurs certains syndicats du secteur public. Nous en parlons donc avec comme question principale. Que pensez-vous de cette mesure du gouvernement? Rejoignez-nous à l'adresse pa@radiocapi.net et appelez-nous au 081-890-7315 pour votre intervention en direct. Pierrot et Lamégi est à la réalisation, Eric Tessidiakala est à la technique, Jérôme Guimbo-Cordon est présente ce programme supervisé par Nicole Gaka. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Merci à vous tous qui nous avez envoyé de messages sur notre page Facebook. Il y a un message qui dit ceci, cette décision nous amène à nous questionner de la manière suivante. A-t-on vraiment besoin de promouvoir davantage le processus de la bancarisation tel qu'initié par notre Premier ministre ou on n'en a plus besoin? Pourquoi donner l'impression de vouloir au même moment une chose et son contraire? Pourquoi prendre certaines mesures sans penser à leur suivi? C'est vraiment surprenant et étonnant. Et les prises de position des différents syndicats de fonctionnaires ont leur raison d'être. C'est paradoxal et contradictoire si nous devons nous référer aux raisons avancées sur vos ondes quand cette opération a été initiée. Fabrice Pongui dit ceci, je voudrais savoir s'il y a eu des discussions en amont avec les différents syndicats sur toutes les modalités. Ouzélé Oukama Charles de Bougna dit ceci, cette mesure serait bonne lorsque les fonctionnaires seront bien payés. Cela signifie que les salaires des fonctionnaires arrivent à temps donc, et un bon salaire pouvant nouer les deux bouts du mois. Dans les cas contraires, c'est une mauvaise décision qui aura un mauvais impact, un impact négatif sur le déroulement des activités de service. Alexis Bahati Kakomere qui dit ceci de Bukavu, je pense que cette mesure n'est pas louable car certaines personnes s'enrichissaient au détriment du salaire des autres. Cependant, actuellement, chaque agent retire son argent sans lamentation dès qu'il faut implanter des banques dans tout le territoire reculé de la RDC. Innocent Armand Kandoli, la mesure du gouvernement est louable car jusqu'à quand allait-il supporter les frais bancaires des fonctionnaires? Aussi, un compte bancaire est individuel et les frais sont à charge du propriétaire. Voilà, il y a à boire et à manger dans ce débat. 081-890-7315 pour votre intervention en direct. Vous avez, vous également, la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Nous recevons le premier auditeur qui va ouvrir le débat. Toto Kani, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, J.R.
Vous avez la parole, Toto Kani. Que pensez-vous?
Je vous en remercie sincèrement. Je voudrais commencer par constater, comme vous avez dit, il y a à boire et à manger dans ce dossier. Et je souhaiterais commencer par un constat qui me laisse perplexe. C'est-à-dire que les agences et fonctionnaires de l'État cherchent à la fois une chose et son contraire. Le commun des mortels se souviendra qu'il y a peu, nos frères de la fonction publique se plaignaient du fait que les agents payeurs et comptables d'État s'enrichissaient illicitement en ponctionnant des sommes faramineuses sur leur salaire ou encore en leur remettant des billets impropres à la consommation. Fort de cela, le gouvernement a pris la résolution sanitaire de payer les salaires par voie bancaire afin d'endiguer ce fléau. Dans un premier temps, les pouvoirs publics ont pris en charge les frais bancaires dans le cadre d'une mesure temporaire d'accompagnement. Et vous vous souviendrez, pendant ce temps-là, les fonctionnaires étaient sensibilisés sur le fait que cet accompagnement prendrait fin d'un moment à l'autre et les bénéficiaires des salaires pourraient eux-mêmes s'occuper du reste. Voilà que le moment est arrivé pour qu'ils se prennent en charge, et bien, les fonctionnaires font volte-face et refusent de se soumettre à cet exercice. Je pense, à mon avis, que cela relève de la mauvaise foi. C'est pourquoi j'invite donc nos compatriotes à un esprit de compréhension afin de suivre la voie de la conscience. De manière à ce cas, parce que là, il n'y a aucun pays au monde où l'État prend en charge les opérations bancaires de ses agents. Ensuite, il est à noter aussi qu'il y a bien d'autres projets à réaliser, hein, qui nécessitent des moyens, autre que la paye de fonctionnaires. Toutefois, considérant la modicité du salaire des agents de l'État, je souhaiterais plutôt que les banques fixent un taux réaliste afin de ne pas asphyxier nos compatriotes d'une part, et de l'autre, qu'elles-mêmes ne baissent pas les rideaux pour cause de faillite. Voilà ma contribution, je vous en remercie.
Voilà, merci beaucoup Toto Kani. Votre intervention, en fait, est partie d'un constat. Vous soutenez ce que pensent certains observateurs, qu'aujourd'hui, c'est vrai, on est en face d'une chose et son contraire, de la part du gouvernement et de la part des fonctionnaires. Les fonctionnaires qui autrefois réclamaient ou dénonçaient des cas de détournement de leur salaire par les différents comptables. Et pour pallier à cela, le gouvernement pensait bancariser le salaire de ces derniers. Mais voilà qu'aujourd'hui, la prise en charge donc des frais, des tenues des comptes doit revenir aux fonctionnaires. Et même, comme ça a toujours été le cas pour d'autres clients dans les différentes banques, voilà que les syndicats montent en créneau pour dire, à cause de leur modicité de salaire, ils ne partagent pas, en tout cas, cet avis du gouvernement. Et vous souhaitez qu'effectivement, les deux puissent se mettre ensemble, enfin, de revoir au niveau de la banque, qui est quand même un taux raisonnable pour permettre à ces que les fonctionnaires ne puissent pas sentir le poids et que le gouvernement aussi ne puisse pas continuer, indéfiniment à payer, à prendre en charge ses frais. Merci beaucoup, Toto Kani, d'avoir appelé. Arsène, vous êtes à Kikwit. Bonjour.
Bonjour, monsieur Julien.
Vous avez la parole, Arsène.
Bon, ok. En suivant mon prédécesseur, je crois que l'idée en soi n'est pas mal, mais la modalité de mettre en application cette idée-là, je crois que s'il faut aller dans une façon un peu plus simple, vous voulez faire quelque chose pour moi, vous le faites et allez jusqu'au bout. Mais si vous voulez faire quelque chose pour moi sans mon avis, il faut avoir d'abord l'amabilité de me donner le temps de réfléchir et d'approuver la mesure. Pour voir cette situation, je crois que le gouvernement avait toute une stratégie qu'il avait mise en marche pour essayer d'orienter le salaire des fonctionnaires. Mais alors, le problème des caisses, le problème de la banque ne revient pas à la personne qui bénéficie de son salaire. Parce que libre est à ce citoyen-là de collaborer avec la banque ou de ne pas collaborer. Vous devez savoir, monsieur, que dans ce pays, le problème de bancarisation de notre argent ou de nos faits, c'est un problème qui est très sérieux où la confiance même populaire est partie des banques. Parce que les banques n'ont pas fonctionné correctement dans le passé. Aujourd'hui, nous devons travailler avec les banques. La première chose, c'est le gouvernement qui nous envoie vers la banque. Qui a ouvert mes comptes? Je ne crois pas que ce sont des citoyens qui ont ouvert leurs comptes en banque. Donc, c'est le gouvernement qui doit prendre cette charge-là. Au moment où le gouvernement veut se décharger de cette opération-là, il doit savoir que il doit prendre langue avec les propriétaires de ces comptes. Il ne faut pas obliger les citoyens, ça c'est une dictature. Ne pas obliger les citoyens. Ou bien, le gouvernement doit savoir que si j'ai payé aujourd'hui 10 000 francs à un citoyen congolais, il aura à payer la banque avant que ça arrive, 10 000 francs arrivent chez lui. Donc, il faut augmenter le salaire des fonctionnaires parce qu'ils vont payer les frais de la banque. Je crois que dans cette histoire, c'est question de collaboration entre la banque, le gouvernement et le propriétaire des comptes. Il ne faut pas qu'on puisse imposer, sinon on va laisser commencer à imposer tout. Acheter à la banque, acheter des produits de vie avec des chèques bancaires au moment où le propriétaire n'en a pas besoin. Je crois aussi que nous devons avoir la culture de collaboration. Cette façon d'agir témoigne d'une certaine dictature, d'une éducation qu'on a eue. Ah oui, permettez. Allez-y,
Arsène.
Je dirais ceci, tout ça de la culture dictatoriale que nous avons connue dans ce pays. L'État a toujours l'art d'obliger les citoyens de faire même ce que les citoyens n'ont pas besoin.
Oui, mais Arsène, je crois que pour les commets des mortels, pour ceux qui sont intellectuels, j'imagine parmi des fonctionnaires et agents de l'État, la plupart des cas, c'est des fonctionnaires de l'État, des gens qui ont fait des bonnes études, qui devaient en principe comprendre que nous ne vivons plus l'État-providence.
où l'État doit tout faire et pour tout le monde. Je crois que l'État a fait un pas et il revenait aussi aux agents de comprendre qu'un jour, l'État devait s'engager dans la prise en charge de ses frais, de donner des comptes et que, bon, il revenait au client lui-même qui est propriétaire d'assumer la prise en charge.
Ok, mais laissez-moi ouvrir mon compte moi-même et je vous donne mon compte. Je dis, écoutez, j'ai ouvert mon compte dans telle banque parce que je collabore bien avec cette banque-là, alors vous envoyez mon argent dans mon compte. Ça ne veut pas dire que vous allez ouvrir un compte à ma charge et après vous me dites, écoutez, allez-y payer dans cette banque-là les frais bancaires. Non. Laissez les fonctionnaires ouvrir leur compte dans leur propre volonté. Et là, c'est à charge du client. Okay. Mais quand c'est le gouvernement qui ouvre le compte, Je ne vois pas la chef de ce compte-là. Voilà là où ça fait un peu de la différence. Mais la culture bancaire, nous devons l'apprendre et on doit rentrer là-bas et petit à petit, ça va marcher. Moi, je crois que c'est ça.
Merci beaucoup, Arsène. Pour vous, comme l'initiative est partie du gouvernement, il revient au gouvernement seul de continuer à prendre en charge ses frais de tenue des comptes. Et vous allez appeler, en tout cas, si jamais les violons ne s'accordaient pas, à la culture des collaborations. Il faudrait bien que les gouvernements se mettent autour d'une même table avec les banques et aussi les propriétaires de ces comptes. Il s'agit de fonctionnaires et agents de l'État pour qu'ils trouvent un terrain d'attente. Merci beaucoup, Arsène, d'avoir appelé l'Equipuit. Étienne, vous êtes à Guémena, à l'Équateur. Bonjour.
Bonjour à Joe Capi, bonjour à tous les auditeurs de Guémena en particulier.
Voilà, vous avez suivi les deux prédécesseurs. Quel est votre point de vue?
Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme venait de dire mes prédécesseurs là, je pense que les fonctionnaires congolais, à l'occurrence les enseignants, n'avaient jamais sollicité à ce qu'on puisse leur ouvrir les comptes bancaires. Je pense que c'est une initiative que le gouvernement congolais avait prise et pour de cause que lui-même le gouvernement congolais connaissait. Mais aujourd'hui, il prend parce que c'est vraiment ce problème est à la ligne et qui fait couler un cristallisme au sein de la population et surtout les enfants en particulier. Comment voulez-vous le gouvernement congolais qui a demandé à bancariser les enseignants? Et il devrait prendre toutes ses responsabilités. Il est vrai que ce système a des avantages parce que d'une part, ça a soulagé les enseignants à de multiples tracasseries que faisaient les gestionnaires. Mais d'autre part aussi, ça a donné un avantage au gouvernement congolais parce que aujourd'hui le gouvernement congolais est à mesure de connaître l'effectif. Et il est en train maintenant de récupérer l'argent là de cet effectif. Moi, je me demande, ça n'a pas été demandé par les anciens, mais est-ce que l'argent de effectif qu'on est en train de récupérer, nous avions suivi le gouvernement se féliciter d'avoir récupéré une somme colossale là, mais est-ce qu'on ne pouvait pas supplier ce montant-là aux enseignants? Mais aujourd'hui, le pauvre enseignant, quel enseignant qui n'a rien, qui rarement ne touche 100 dollars et le prix au montant d'un achat qui est 100 dollars là, on doit encore soutirer pour moins 104 dollars sur cet argent. Vous ne voyez pas que c'est une façon d'aimer quelque chose et son contraire à la fois. Donc, on a essayé de libérer l'enseignant du tracasserie du gestionnaire. Et maintenant, c'est le gouvernement congolais lui-même qui est en train de tracasser ses enseignants. Donc, à mon avis, je pense que, oui, mettre autour d'une même table les syndicalistes, les anciens consorts, c'est bon. Mais à mon avis, je suggère et je demande au gouvernement congolais prendre ses responsabilités en main. Aujourd'hui, par exemple, les enseignants continuent à toucher leur modique somme de salaire. Mais quelle volonté, quelle bonne volonté qu'on a au lieu d'augmenter les salaires de ces enseignants qui se donnent corps et âme pour former les peuples, les enfants congolais, maintenant, on commence à soutirer. C'est comme on prend une chikwang, on donne à un enfant, sachant bien que cet enfant avec cette chikwang ne sera pas rassasié, mais on vient encore couper une part de cette chikwang pour donner. Donc moi, je pense que vraiment, cette décision n'est pas tellement salutaire. Donc, que le gouvernement congolais se prenne en charge, s'il voit bien, parce que c'est l'initiative du gouvernement, que le gouvernement congolais puisse suppléer ça. Parce que sinon, vraiment, c'est moquer des enseignants, parce que nulle part chez les militaires, ça va se faire, nulle part chez les policiers, ça se passera, mais seulement parce que aujourd'hui au Congo, on trouve l'enseignant comme quelqu'un de qui n'a pas valeur. C'est pourquoi on est en train de le torturer, on est en train de le malmener de cette façon-là.
Voilà, merci beaucoup Étienne. Pour vous, vous pensez que c'est possible que l'État puisse suppléer, en tout cas sur les salaires de fonctionnaires, avec les reliquats obtenus lors de l'opération en fait démantèlement de fictifs hein, sur la liste de paye des agents et fonctionnaires de l'État. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a fait avec Pompe, on a annoncé que l'État a récupéré beaucoup d'argent, mais pourquoi cela ne pouvait pas servir en fait pour suppléer le montant et aussi servir de la prise en charge des frais de tenue des comptes bancaires. Merci beaucoup, Étienne, d'avoir appelé des Guémena. Pichu, vous êtes à Kisangani, bonjour.
Oui, bonjour, la radio est Capi, et bonjour tous les auditeurs de la radio Capi. Moi, je vais juste tenter un peu d'intervenir, de faire la corrélation avec les salaires et la réalité sociale, et toucher un peu les points en rapport avec le fait de tenir des comptes là. Mais vous remarquerez que sur le plan social d'abord et professionnel, un chef de division gagne moins de 80 000 francs. Or, si on exprime en termes normal, vous remarquerez que c'est insignifiant dans la société par rapport à la vie sociale, à la vie actuelle. Or, si on voit encore ce qui est comme les frais de retenue là, il faut commencer à retenir 3 000 francs de 5 000 francs. Or, un huissier gagne dans les 50 000 francs. Et s'il faut toucher, si tu veux un peu, tu veux faire la conséquence ou la conclusion de cette décision. Et là, que deviendra la famille de ces agents? Que deviendra leurs enfants vraiment? Vous ne voyez pas que le gouvernement lui-même vient encore chercher les CD, alors qu'on venait de les éradiquer à Kinshasa, il y a.
Voilà, on a des soucis avec la ligne de Pichu, hein. Pichu qui, en fait, faisait une corrélation entre les salaires et les pouvoirs d'achat. Et aujourd'hui, fonctionner encore sur les salaires, c'est que ce qui est donné modiquement. Donc, ça risque de créer encore des tensions inutilement. Au lieu plutôt que le gouvernement continue à prendre en charge. Donc, dommage qu'il est parti, Pichu. On n'a pas pu poursuivre son idée, son intervention par rapport à la thématique du jour. Kiobamba, vous êtes à Lubumbashi. Merci de nous rejoindre. Bonjour.
Bonjour, JR. Je remercie M. Pierre-Lamé de m'avoir mis en contact en direct avec la radio Kapi. Je dis bonjour à tous les habitants de la ville qui préfèrent de Lubumbashi. Ce qui est vrai que, être mon prédécesseur intervenant, je préfère que je puisse l'ajouter pour faire comprendre quand même toute l'opinion des auditeurs. Et tous les auditeurs, sachant que l'État congolais a utilisé peut-être la malignité. Du fait que, pour essayer un peu de faire ce qu'on appelle la majoration salariale, c'est compliqué pour l'État congolais, raison pour laquelle ils sont arrangés d'une autre manière, peut-être par le choix des crédits au niveau de la banque. C'est pour ça que l'État, l'enseignant congolais, lui a besoin de l'État. Si j'étais parlé de l'enseignant, parce que je suis dans cette catégorie là-bas, c'est-à-dire qu'il y a un écart terrible entre l'enseignant qui se trouve, les pauvres qui se trouvent aux humanités dans une école de la capital de l'autre pays à Kinshasa, et moi je me trouve peut-être en province, à Lubumbashi. Et qui évoque peut-être ceci qui fait déjà la part des choses.
Oui, Kiobamba. Oui, si vous pouvez me parler fort, parce que là, on sait difficilement.
Mais merci, voilà, je peux essayer un peu d'ouvrir la voix. Ça dit, j'ai dit que j'ai voulu peut-être faire quoi à mon intervenant, à mon prédécesseur, sachant que l'État congolais a utilisé une certaine malignité. On est de faire ce qu'on appelle la majoration salariale. C'est que les gens, tous les enseignants, sont en train d'attendre quand même une augmentation des salaires. L'État congolais s'est arrangé d'une manière ou d'une autre, peut-être dès qu'on est d'accord avec les différentes banques, on commence à donner quand même des crédits bancaires. C'est-à-dire que les enseignants, les agents fonctionnels de l'État commencent à prendre des crédits qui ont beaucoup de noms, crédits locaux, crédits peut-être avec beaucoup de noms là-bas, crédits confort et autres, crédits études. Ainsi de suite. Et pourtant, l'État, l'enseignant ou bien les fonctionnaires de l'État, lui a besoin justement de son augmentation salariale pour qu'il puisse commencer à voir comment allouer les deux bouts de mois. C'est un peu ça. Maintenant, nous voulons, peut-être si on devait avoir une occasion de se dire, c'était celle de voir quand même sur votre antenne, pour un débat tel que celui-ci, on peut savoir peut-être que le ministre de l'EPC, Michel Mango Famba, on peut lui poser des questions, ou bien le ministre. C'est-à-dire de dire que le vice-premier ministre Daniel Mukoko Samba, mais fort malheureusement, vous n'avez pas donné l'opportunité de poser la question de pourquoi C'est-à-dire, à penser des fictifs qui sont...
Kiombamba, je crois que nous avons un invité dans ce studio, mais il n'est pas du budget pour... au fait, répondre directement à votre question liée à l'augmentation, à la variation, à la hausse du salaire. Donc, voilà. Donc, oui. Donc là, nous allons peut-être faire appel à qui des droits, donc, pour répondre à votre préoccupation. Mais néanmoins, nous disons, comme Sotokane l'a dit en début, parce que lui, son intervention était centrée sur un constat. En fait, il a comme l'impression que les agents, les fonctionnaires de l'État, et c'est le même constat qu'il a fait du côté du gouvernement, de vouloir une chose et son contraire. C'est-à-dire, on veut bancariser le salaire des fonctionnaires pour améliorer les conditions sociales de ces derniers, mais en même temps, on oblige, après deux ans, aux mêmes fonctionnaires de pouvoir accepter qu'on puisse retenir quelque chose de leur salaire qui, du reste, est très, très, très modique. Donc, voilà. Là, c'était les constats faits par Sotokani, et a fait le revenu pour dire l'idée est très bonne, mais comme l'initiative est partie du gouvernement, il revient au gouvernement seul de continuer à prendre en charge ses frais, et si cela a été impossible, à l'appel à la culture des collaborations, c'est-à-dire les trois parties doivent se retrouver ensemble, c'est-à-dire la banque, les concernés, donc il s'agit là des fonctionnaires de l'État, et aussi les gouvernements congolais pour voir, dans la mesure possible, comment trouver un terrain d'attente. Étienne, lui, il a complété en disant qu'il faudrait utiliser le reliquat obtenu par le gouvernement congolais pour suppléer sur les salaires, en fait, de permettre à ce que les fonctionnaires ne puissent pas sentir le poids quand on va retenir ces salaires. 081-890-7315 pour votre intervention en direct. Merci à vous, Kimbamba, d'avoir appelé de Lubumbashi.
Au Café Rétro, fait revivre l'étude des années 60, 70 et 80. Rumba, pop, disco, slow, des heures de musique congolaise, africaine, européenne et américaine. Le dimanche soir de 19h à minuit, le lundi et le mardi de 21h à minuit, avec les mix de DJ Dagui.
On va poursuivre avec vous Dieudonné à Ariwara et Isidora Kikwit. Il est temps pour nous de dire un mot à notre invité qui est dans ce studio, Monsieur Jean-Louis Kayembe. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur des opérations à la Banque Centrale et coordonnateur de suivi pour la bancarisation, le processus amorcé il y a deux ans, si je...
Il y a trois ans.
Il y a trois ans,
le président du comité
de suivi. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est vrai, les syndicats, le secteur public désapprouvent cette décision de pouvoir, prendre en charge les frais de tenue des comptes salaires des fonctionnaires par les fonctionnaires eux-mêmes. Alors, comment vous réagissez?
Bon, merci d'abord de votre invitation, de me donner cette occasion, l'opportunité de m'exprimer sur les antennes, de la radio Papi. Je voudrais d'abord commencer par le commencement, c'est-à-dire que rappeler un certain nombre de choses. Nous avions amorcé le gouvernement a amorcé cette réforme et tout le monde, en tout cas trois ans après l'exécution de la mise en œuvre de la réforme, les fonctionnaires eux-mêmes, que ce soit les délégués syndicaux, tout le monde, je crois que les témoignages pleuvent sur le média, au niveau des médias, et tous les témoignages vont dans le sens d'encourager la réforme. Je suis passé par ici plusieurs fois,
tout à fait.
Et nous avons écouté des témoignages, des gens qui disaient que, en tout cas le processus, l'ancien système est... C'était un système qui demandait à ce que ceux qui étaient payés puissent, en tout cas, qu'il y ait des ponctions qui étaient opérées au niveau de la paye telle que c'était dans l'ancien système. Donc, les gens perdaient beaucoup d'argent. Il y avait des gens qui avaient, par exemple, un salaire de 80 à 100 000 et ils arrivaient au travers de la procédure, à l'ancienne procédure de paye, de gaspiller ou de réaliser
10 à 20 000
de pertes sur leur paye. Et donc, les gens ont encouragé, ont apprécié la bancarisation. Et nous sommes tous d'accord par rapport aux avantages qu'offre la bancarisation. D'abord, la totalité, l'intégralité du salaire, la bancarisation a permis d'atteindre cet objectif. L'amélioration de la qualité des billets utilisés dans la paye. On se rappelle que par le passé, les gens utilisaient et étaient payés en de mauvaises coupures. Et parfois, il y avait dans les coupures, dans les liasses, il y avait des manquants. Et les gens ont constaté que avec la bancarisation, tous ces mots-là qui rongeaient l'ancien système de paye avaient disparu. Donc, ils avaient beaucoup, ils ont réalisé qu'il y a beaucoup d'avantages à être payé par les systèmes bancaires que par rapport à la paie qui se faisait par le droit des comptables. Donc, voilà sur d'abord les bases sur lesquelles nous sommes tous d'accord. Maintenant, sur la troisième année, 2014, parce que la réforme a été annoncée en 2011. Maintenant, le problème était de savoir, le gouvernement, dès le départ, avait pris des engagements vis-à-vis de la CB, parce que, comme vous le savez, c'est un service que les banques sont en train de rendre au gouvernement. Et donc, ces services, les banques ne sont pas des entreprises philanthropiques. Les banques vivent des intérêts, des commissions, des frais, ainsi de suite, qu'elles perçoivent sur les opérations qui se passent au niveau des banques. Des opérations de paiement, des opérations de crédit, de dépôt, ainsi de suite. Donc, il était convenu que l'État, dès le départ, avait accepté des prendre en charge de tenir le compte ou le fonds de gestion de la paix. Tout simplement, c'est dans le but d'encourager la réforme. Mais il était entendu dès le départ que lorsque la réforme aura atteint la vitesse de croisière, lorsque les bénéficiaires de la réforme, les intéressés, auront réalisé les bienfaits de la réforme et que, à ce moment-là, l'État pouvait, comme partout ailleurs, laisser la charge de charge là. La charge liée à la gestion ou au frais des tenues de compte entre les mains des bénéficiaires ou les intéressés ou ceux qui profitent de la réforme. Donc, c'est ainsi donc, toujours dans les parcours de la réforme, plusieurs mois avant, l'État a annoncé que progressivement, est en train de préparer, d'envoyer des messages et en train de dire que, à partir du mois de juillet, progressivement, les agents fonctionnaires de l'État devraient commencer à se préparer pour prendre en charge ces frais de tenue de compte. Et voilà, au mois de juillet, cette opération a commencé par une première catégorie. Cette opération, donc, les frais de tenue de compte, la prise en charge des frais de tenue de compte a concerné les catégories de tous ceux-là qui ont un salaire ou une prime supérieure ou égale à 92 000 francs. Alors, maintenant, je crois que tout le problème, c'est quoi? Les fonctionnaires, de toute façon, qui ont eux-mêmes réalisé les bienfaits de la réforme, qui ont comparé de toute façon les frais de tenue de compte, qui maintenant, parce qu'ils ont déjà tout ça, ils ont réalisé que les frais de tenue de compte, ce 3348, par rapport aux pertes qu'ils ont réalisées dans l'ancien système de 10 000, 15 000, 20 000, que qui pouvait que
il n'y a pas que ces frais-là, semble-t-il qu'il y a même l'impôt sur les revenus, l'impôt sur les salaires.
Non, il n'y a pas d'impôt sur les salaires. S'il y a autre chose à part ces frais de tenue de compte, nous demandons à ce que cela soit rénoncé. Que la banque qui opère, qui effectue une autre retenue, à part celle décidée par le gouvernement, à savoir les frais de tenue de compte de 3348, s'il y a autre chose, les gens n'ont que à dénoncer pour que des mesures soient prises et que des ajustements ou des correctifs soient apportés de manière qu'ils puissent rentrer dans l'ordre.
Alors, raisonnons qu'on est comme le commun des mortels qui pense que, au fait, la réforme qui a donné quand même quelques ressources au gouvernement congolais, surtout le cas des fictifs, on a pu quand même récupérer plus d'un million déjà 2-3 mois lorsqu'on a lancé l'opération. Je crois que mes calculs sont bons. Cet argent pouvait quand même servir de suppléer, selon l'auditeur, ça pouvait peut-être, on pouvait donner à la banque pour suppléer et permettre à ce que les fonctionnaires ne sentent pas le poids. Est-ce qu'au niveau du comité de suivi, on ne peut pas proposer cela?
Parce que vous savez, est-ce que les gens savent combien l'État paye aux banques dans le cadre, au titre de rétribution, dans le cadre de la paye par voie bancaire? Donc, toute la paye bancaire, la facture de la CB des banques, par mois, se chiffre à 2 milliards de francs congolais que l'État paye comme frais de tenue de compte, que l'État payait jusque-là, 2 milliards par mois. Lorsque vous prenez les 2 milliards par mois par rapport à 13 milliards engrangés au titre de reliquat, il n'y a pas de commune mesure, depuis que la réforme a commencé, faites les calculs, faites les comptes. Donc, l'État a déjà payé pour soutenir la réforme, parce que la réforme a plusieurs implications. L'État, peut-être sur ce front-là, des reliquats, l'État ne va pas gagner, ou à très court terme, l'État va gagner à court, moyen et long terme. et surtout lorsque les effectifs seront maîtrisés, la masse salariale sera maîtrisée, l'État peut gagner dans les années à venir, parce qu'ayant déjà stabilisé les dépenses liées aux rémunérations, l'État dans les années à venir peut dégager d'autres ressources, d'autres marges, d'autres ressources qui peuvent affecter à d'autres dépenses. Donc voilà pourquoi l'État a accepté à très court terme de faire face à ces coûts, 2 milliards par mois. Faites 2 milliards par mois, le fisc pour une année, ça fait au-delà de 12 milliards. Donc si vous voulez comparer, et la réforme a déjà fait 3, plus de 12 mois, donc plus de 2 ans. Donc, si on met en balance ce que l'État a supporté comme frais par rapport au reliquat tel que les gens en parlent, les 13 milliards, donc l'État a payé plus que les 13 milliards. Voilà pourquoi l'État, 3 ans après, a estimé que les bénéficiaires eux-mêmes peuvent supporter à l'État, à l'instar de ce qui se passe dans d'autres pays. Donc, comme vous le savez, il y a bien sûr des gens qui étaient, avant même la bancarisation, des gens qui avaient des comptes dans les banques. Et même en dehors de la bancarisation, il y a des gens qui ont des comptes salaires, et il y a également ceux qui ont d'autres comptes dans d'autres banques. Donc, pour tous ceux-là qui sont dans les banques ou qui ont d'autres comptes, ils savent qu'il y a des frais détenus de compte. Si l'État a favorisé pour que l'ouverture des comptes, qu'il n'y ait pas des frais liés à l'ouverture des comptes,
juste de
l'ouverture était gratuite, toutes les opérations, formalités étaient gratuites. Maintenant, 3 ans après, l'État a estimé que c'était normal pour que le bénéficiaire, ayant compris les bienfaits, ayant cerné les bienfaits de cette réforme, qu'ils étaient à même de... Nous avons estimé, en tout cas moi personnellement, nous avons fait le tour, nous avons croisé certains... J'ai réalisé également une certaine enquête, et je trouvais qu'il y avait des gens qui ont bien réagi en fait par rapport à cette décision. Donc qui ont accepté, qui ont trouvé que c'est tout à fait normal. Je crois qu'il ne faut vraiment pas généraliser pour dire que les syndicalistes, bien sûr, le vice-premier ministre, le gouvernement, et même le Premier ministre a reçu les syndicalistes. Tout ce que les syndicalistes ont demandé, c'est qu'ils soient associés, qu'ils voient comment...
Voilà, c'est la proposition.
Justement, qu'ils soient associés à l'opération, et le gouvernement était favorable à cette requête. Donc, tout ce que nous avons décidé, c'est que il y aura des syndicalistes qui auront accès à toutes les informations liées aux retenues qui opèrent les banques et même aux fichiers au niveau de la direction de la paix. Ça, c'est déjà une demande qui avait trouvé des réponses au niveau de ce travail.
Dieudonné est à Arriwara, Isidore Akikuit et Simon Amatadi. Dieudonné, bonjour.
Bonjour.
Vous avez la parole, Dieudonné.
Oui, c'est une belle initiative du gouvernement de bancariser le secteur enseignement. Mais ce qui est là, ce que je suis en train d'observer, c'est la manière de retourner maintenant à l'enseignant de payer eux-mêmes le fait de tenir des comptes. Et pourtant, en ouvrant les comptes, comme le prédécesseur l'a dit, n'a pas tenu compte de l'opinion.
Oui, c'est peut-être parce qu'on n'a pas cette culture et bon nombre des fonctionnaires n'étaient pas informés sur le fonctionnement de différentes banques. Mais à moins quand on ouvre un compte, je crois que le bénéficiaire est responsable de frais, de tenue des comptes. Ça, c'est clair par tout le monde. On ne peut pas inventer la roue, il faut
avoir une idée de trou. Affirmatif, il va falloir qu'on demande le consentement des enquêtes des enseignants.
Alors, donc, vous voulez dire que si on devait passer le temps... Mettons-nous dans le cas...
Le problème qui est là, c'est la façon d'obliger maintenant une manière de dicter les enseignants de commencer à payer les frais de tenir...
Voilà, alors, là, si je comprends bien, vous remettez en cause la réforme. Parce que s'il fallait attendre et consulter chaque fonctionnaire et agent de l'État pour lui demander si on devait ouvrir les comptes ou non, en son nom, ben voilà, on allait mettre des jours et tout un siècle à attendre la confirmation des uns et des autres pour expliquer et sensibiliser la culture. Voilà, Dieudonné, dommage, hein, parce que là, on va prendre celui qui vient après Dieudonné, les télécompteurs, je ne trouve plus, alors, Isidore qui est à Kikwit, alors, Isidore, bonjour.
Bonjour,
Dieu. Isidore, vous êtes à bonjour, et quel est votre point de vue?
Bon, moi, je crois que c'est une
mauvaise nouvelle en effet pour les enseignants concernés. Comment pouvez-vous comprendre que les mêmes enseignants qui attendent voir son salaire augmenter, mais le voient plutôt diminuer, peut-être satisfait? Quelles que soient en tout cas les raisons, eh bien, moi je crois que ceci pourrait bien être compris par l'enseignant s'il était averti au préalable. C'est-à-dire du moment où le gouvernement a décidé la bancarisation de son salaire. Donc, c'est un problème de communication. Les banques font leur travail, hein, et dans le cas d'espèce, c'est de protéger, acheminer les salaires jusqu'au destinataire. Elles doivent donc être payées, s'il faut le dire comme ça. Et cette question devait être déjà évoquée et débattu par les
Isidore, vous avez suivi notre invité tout à l'heure qui a parlé d'ailleurs de faire engager par le gouvernement pour prendre en charge le prêt de tenir des comptes autour de 2 milliards de francs congolais par mois. Alors si vous faites les calculs, vous soutenez que l'État puisse continuer, peut-être cet argent pouvait servir à autre chose aussi, pour pallier qu'on peut peut-être une autre part allouée dans les budgets de l'État.
Oui, ben, j'ai autre chose, c'est quoi? Qu'est-ce qui est primordial pour le gouvernement? Ça aussi, c'est autre chose. Le gouvernement pouvait payer ça et résoudre le problème. Et moi, je crois que si le gouvernement pouvait faire ça, il n'y aurait pas de débat, en tout cas.
Il n'y aurait pas de débat.
Et comment? Il y a encore un problème là, c'est le problème de la politique salariale.
S'il vous plaît, ne faisons pas la gamme, ça c'est notre débat. Peut-être on pourrait inviter le ministre du budget ou encore le ministre de la fonction publique pour parler un peu des salaires de fonctionnaires, la révision ou non. Donc là, c'était notre débat. Merci beaucoup, Isidore. On prend Simon Zilulu qui est à Matadi, membre du syndicat d'enseignants. Simon, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, JR. Donc, je suis le porte-parole de la synergie du syndicat des enseignants du Bas-Congo. Donc, ici, je parle au nom des 38 962 enseignants qui composent l'EPST Bas-Congo, parce que c'est seulement samedi que nous venons d'avoir une assemblée générale de tous les enseignants qui a pris la décision, d'ailleurs, de supprimer la prise en charge des enseignants par les parents. Pourquoi? Parce que toutes ces manœuvres que nous voyons que le gouvernement congolais est en train de faire, c'est plus contre l'enseignant et non pour l'enseignant. Pourquoi? Parce que vous imaginez la bancarisation telle que le monsieur l'a expliqué, et il a donné des avantages, mais ça a provoqué des désavantages qui ne sont pas nombreux, mais très graves. Mais pour ce qui est de la retenue telle qu'il vient de dire, le gouvernement doit avoir honte de faire ça, parce que le gouvernement a beaucoup de dettes des enseignants. Relativement à la loi cadre 004/011 qui venait d'être signée. Mm-hmm. Parce que l'enseignant d'abord est sous-payé. Ce budget 2014, déjà au mois de juillet, on devrait commencer à ajouter 7000 francs à l'enseignant. Et ils ne l'ont pas fait. Tel qu'il est là, il connaît ça. Aujourd'hui, brusquement, on dit à l'enseignant non, nous désengageons de ceci. Parce que le gouvernement doit planifier les choses. Déjà depuis octobre 2012 que nous avons commencé à bénéficier à tort ou à raison des services de notre pays par des services bancaires. Depuis 2012, octobre, jusqu'à aujourd'hui, c'est presque jour pour jour, plus ou moins 2 ans, que le gouvernement congolais avait accepté de... Tu vois comment on piège les formateurs de la relève? Ils ne nous disent pas qu'ils vont cesser un jour. Ils ont planifié à nous payer. Et l'enseignant sait que l'État congolais, qui s'est rendu compte que nous sommes sous-payés, impayés, mal payés, laissez-lui prendre cette petite charge-là. Et ça, quand même, essayer de soulager les tensions qu'il pouvait mettre par rapport aux enseignants qui ont été débancarisés par la bancarisation. Mmh. Et c'est comme ça que nous l'avons accepté. Maintenant, en cours de chemin, on change la vie. Est-ce que ça a été planifié, oui ou non? Donc, quel est le rôle vraiment d'un gouvernement responsable qu'il pouvait faire? Mmh. Maintenant, là, à la veille de la rentrée scolaire, les gens commencent à se préparer. On commence à troubler les gens.
Mais voilà, alors, Simon,
les avantages de la bancarisation sont tels qu'il a cité.
Oui.
Mais je vous dis que
et à terre, nous avions
6370 non payés. ces gens-là n'étaient pas payés et nous les savions. Alors, voilà. Quand il y a eu bancarisation,
oui,
le nombre a accru. Il est parti de 3 670 à 13 085. Pourquoi? Parce que dans l'enseignement, on ne paye pas l'argent, mais on paye les postes. Imaginez un enseignant, sixième année primaire, qui quitte en pleine année scolaire, qui part. Donc celui qui le remplace devrait bénéficier de celui qui est parti. Le salaire devrait toujours sortir à son nom. Or, avec la bancarisation, tous ces gens-là ont été mis à l'écart. Et jusqu'aujourd'hui, ces gens-là prêtent bénévolement. Alors ça, c'est les avantages. Aujourd'hui, où je vous parle, les enseignants des districts de Lukaya, donc Kimvula, Madimba, Katanguru, ne sont pas encore payés par Tigo. Et jusqu'aujourd'hui, plus de 3 400
voilà,
enseignants
sont
bien payés. Alors, c'est retenu dans les districts
Voilà, Simon, merci beaucoup. On va prendre David qui est à Colésie. Bonjour, David. Voilà, pour le reste, il en vaut aussi pour Christophe qui va intervenir à un moment à l'autre. Il faut être précis, concis, comme ça on avance, mais ça peut être d'accorder la parole à tout le monde. David, bonjour.
Bonjour, monsieur Gilles.
Voilà, que pensez-vous de cette méthode du gouvernement?
Je voulais juste poser deux questions. Je voulais poser les deux questions là sur deux volets. À ce qui concerne d'abord la bancarisation et à ce qui concerne encore le consentement entre les agents de l'État et notre gouvernement. Et il devrait vraiment se faire le sujet hier. Moi, je pensais que notre gouvernement devrait tout simplement créer un consentement entre lui-même
et les agents de l'État. Et le bénéficiaire.
À ce qui concerne les TMI plutôt des salaires de la banque, je pense.
Voilà, on a dit
sur deuxième volet, moi je dirais peut-être que d'abord, ça c'est la torture psychologique. Pourquoi? Parce que notre gouvernement, à ce qui concerne le salaire des agents de l'État, un salaire qui est minime. Et puis, notre gouvernement cherche à ce que les agents de l'État commencent à payer le salaire là, plutôt le frais de tenue de la banque. Bon, ça ne sonne pas bien. Moi, je pense que c'est la torture psychologique. Ce qui est préférable, notre gouvernement doit créer quand même un climat favorable à ce qui concerne les agents de l'État et lui-même. Parce que nous, les agents de l'État souffrent beaucoup. Un salaire de 90 000, un salaire de 50 000. Mais notre gouvernement veut à ce que ces salaires-là soient encore retirés à partir de la banque. Les agents de l'État, à ce qu'ils ont les agents de l'État, ils n'ont pas demandé à notre gouvernement à ce qu'ils soient affectés à la banque. Ça, c'était l'initiative de notre gouvernement. Alors, comme c'était l'initiative de...
Il faut que le gouvernement continue à prendre ça.
Doit faire ce qui est nécessaire à ce que...
Voilà, merci beaucoup David, parce qu'il y a un auditeur qui vient à peine de nous envoyer sa question aussi, sur les nets. Il dit ceci, par rapport à ce qu'a dit notre invité, pourquoi d'abord l'État veut se désengager de ses frais et combien ils sont, ceux qui touchent plus ou moins 92 000, parce que vous avez parlé de ceux qui vont au-delà des 92 000, ça coûtait quoi au trésor public? Vous avez dit, peut-être il nous a pris au cours de l'émission. Alors, M. Kayembe, il s'agit là d'une question direct et voilà.
Je disais que le frais de tenue des comptes coûte à l'État actuellement 2 milliards par mois de francs congolais. Et donc, c'est en fait ce montant-là que l'État paye pour répondre à l'auditeur.
Alors, ils sont combien qui touchent plus ou moins de 2 000 francs congolais parce que ce sont ces fonctionnaires-là qui sont concernés.
Oui, c'est tout le monde, donc tous les fonctionnaires qui ont une prime ou un salaire de base supérieur ou égal à 92 000 francs congolais, ce sont ceux-là qui sont concernés dans un premier temps. Alors, j'ai compris que, de toutes les interventions qu'il y a eu, j'ai compris une chose, c'est que les gens ne remettent pas en cause les avantages de la bancarisation. Ça, nous sommes tous d'accord. Deuxièmement, les gens ne remettent pas en cause le principe qui est universel, celui qui consiste pour une banque de procéder à des retenues pour la gestion ou la tenue de compte. Et les gens, en tout cas, j'ai compris que les gens ne remettent pas en cause le fait que les frais de tenue de compte sont pris en charge par les titulaires de compte. Mais ce que je comprends, en tout cas de toutes les interventions, c'est que les gens demandent à ce que l'État puisse améliorer les conditions salariales. Et ça, c'est tout à fait légitime que les gens puissent demander au gouvernement de faire un peu plus, surtout dans les secteurs de l'enseignement. Donc je crois que, comme vous l'avez dit, il n'y a pas d'amalgame. La bancarisation, c'est une réforme qui a été applaudie par tout le monde au regard des avantages. Et les principes, je crois que, tel qu'il est expliqué, les gens ont compris que ce sont des détenteurs de comptes qui prennent en charge le frais de tenue des comptes. Et que, comme cela est, la décision a été prise, que eux-mêmes puissent prendre le frais de tenue des comptes, alors que, avant le mois de juillet, ce frais était pris en charge par les trésors, les gens demandent à l'État que l'État puisse faire quelque chose. Et je crois que vous avez déjà donné la réponse et que le gouvernement devrait, les syndicalistes devaient se battre pour que les gouvernements puissent respecter ces engagements et dans la mesure du possible et avoir une bonne politique salariale.
Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, je risque d'oublier que les syndicalistes seront cette fois-ci
impliqués. Oui, les syndicalistes seront
de la traçabilité des équipes d'opérations.
Je crois que
ils seront dans les comités de suivi.
Les syndicalistes
sont portés.
Oui, justement. Il y a une première rencontre entre le vice-premier ministre, le professeur Moukoko, et le syndicaliste, les délégués syndicaux. Et cette rencontre, à l'issue de cette rencontre, tout ce qu'ils ont demandé, c'est être associés dans le avoir qu'ils aient beaucoup plus d'informations dans la mise en exécution de ces décisions du gouvernement. Et puis, comme vous savez, on ne se cache pas, qu'on se dise des vérités. À chaque rentrée scolaire, les professeurs, les délégués syndicaux ont toujours des revendications.
C'est tout à fait normal.
Je crois qu'il n'y a pas à s'alarmer. Tout devrait se négocier. Et le gouvernement et les syndicalistes devraient se mettre autour d'une table et voir des problèmes, des fonds qui se posent, si c'est en fait au niveau des promesses qui ont été données par le gouvernement dans le cadre du budget 2014, qui n'ont pas encore été tenues, réalisées, que les syndicalistes et le gouvernement se mettent ensemble pour trouver des solutions à des problèmes qui se posent. Et moi, je crois que par rapport à les réformes, nous sommes tous d'accord, en tout cas tous les intervenants sont d'accord, qu'ils ont applaudi la réforme et que, et tout, en tout cas par rapport à la prise en charge de frais bancaires, ça ne devait pas poser de problème, mais que l'État voit du côté de l'élimination dans la mesure du possible si,
donc, globalement, les frais tournent autour des 3%.
3 348. Et les gens supportent.
Alors, pas plus, pas d'autres taxes.
Pas d'autres taxes, il n'y a pas autre chose. S'il y a autre chose, à moins que ça rentre dans le cadre des engagements que les bénéficiaires et même les intéressés ont pris vis-à-vis de la banque. C'est-à-dire, si les bénéficiaires ont sollicité d'autres services,
voilà,
les
crédits,
voilà, les cartes de bancaires, les services SMS alerte,
c'est normal qu'il y ait un
peu de chaque fois que vous sollicitez un service à la banque,
il y a des
services payants. Donc, vous devez payer par rapport à tout ça. Et donc, il y a des délais qui sont opérés par rapport à tous les services financiers que les gens, les bénéficiaires, les fonctionnaires sollicitent auprès de leurs banquiers. Donc, par rapport à la retenue, en tout cas celui qui n'a pas autre chose à devoir à la banque, des montants retenus. Si jamais il remplit les critères, c'est 3 348 francs.
Alors, en ce moment, donc, ce qui revient à dire qu'un fonctionnaire peut changer une banque de son choix. Il peut décider
oui.
À matin.
Nous allons y arriver. Nous sommes dans une réforme, c'est un processus. Nous sommes en train de finaliser d'abord la constitution d'un fichier unique. Lorsque nous aurons le fichier unique, c'est terminé, la constitution sera terminée, il y aura donc un identifiant de chaque fonctionnaire, ça sera le numéro du compte. Et lorsque nous aurons atteint cette étape-là, maintenant les fonctionnaires, nous allons arriver à cette étape où le fonctionnaire pourra aller dans ce
moment de son choix.
N'importe quelle banque.
Pour l'instant, c'est impossible, c'est pour ça qu'il n'y a pas une
identification. Et puis, le gouvernement a négocié ces frais de tenue de compte pour le compte des fonctionnaires. Parce que on évite à ce que les banques mettent les fonctionnaires au même pied d'égalité que d'autres clients. Donc il y a une sorte de tarif préférentiel que le gouvernement a négocié
par
rapport aux fonctionnaires, qui aient des frais de tenue des comptes négociés par le gouvernement et qui sont en faveur des bénéficiaires, donc qui sont en faveur des fonctionnaires de l'État. Donc les gens seront libres s'ils veulent prendre d'autres engagements. s'ils font la comparaison, ils vont trouver que les frais de tenue de compte qu'ils payent dans le cadre de la bancarisation sont de loin inférieurs par rapport à...
En ce moment-là, tous les frais que ça pourrait générer, c'est à charge du bénéficiaire.
Christophe, c'est un mouvement, on va prendre la dernière série. Malheureusement, le sujet est tellement très passionnant, mais notre invité est arrivé, en tout cas, légèrement en retard. On va quand même terminer avec les auditeurs. Christophe Mouchmaï, André Taguenena. Bonjour, Christophe.
Christophe, vous êtes avec nous? Voilà, on va plutôt à André qui est à Guémena. André, bonjour.
Bonjour, J.R.
Votre point de vue?
Mon point de vue est le suivant. L'esprit humain s'oppose souvent au changement. Et cela est normal. La bancarisation n'est pas de notre culture. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens s'y opposent. Mais à la longueur des années, ils finiront par comprendre le bien fondé de la bancarisation. Pendant, le gouvernement doit tout faire pour rapprocher les fonctionnaires des banques. Et quant à la retenue, ce sont là les exigences de toutes les banques du monde. Voici mon point de vue.
Merci beaucoup, André. Et là, vous venez une fois encore à souligner, comme le prédécesseur, Toto Kani, Arsène et tant d'autres, qui, en fait, ont évoqué la question sur la culture bancaire, que doit normalement imprimer le chef de chacun des Congolais pour arriver quand même à comprendre toutes, en tout cas, les tenants et les aboutissants des opérations. Sinon, bon, on risquerait de croire qu'on est en train de nous punir. Voilà. Merci beaucoup, André, d'avoir appelé. Nous prenons d'ailleurs la réaction de Franck Bévier, qui dit ceci: cette décision nous amène à nous questionner de la manière suivante. A-t-on vraiment besoin de promouvoir davantage le processus de la bancarisation tel qu'initié par notre Premier ministre, ou on n'en a plus besoin? Pourquoi donner l'impression de vouloir au même moment une chose et son contraire? Pourquoi prendre certaines mesures sans penser à leur suivi? C'est vraiment surprenant et étonnant, et les prises de position des différents syndicats des fonctionnaires ont leur raison d'être. C'est paradoxal et contradictoire si nous devons nous référer aux raisons avancées sur vos ondes quand cette opération a été initiée. Ça, c'est Franck de Vienne qui nous a écrit depuis Autriche. Voilà. Alors, monsieur Jean-Louis, comment vous réagissez d'abord par rapport à la réaction de Franck de Vienne?
Bon, dites-moi d'abord comment j'ai réagi par rapport à
André.
Donc, je veux féliciter André. Je crois que, bon, André, certainement qu'il a beaucoup circulé et il connaît un peu la pratique dans le monde des affaires. Donc, les banques, comme je l'ai dit, ne font rien pour rien parce que elles font du business, donc chaque fois qu'elles offrent un service, c'est un service payant. Donc, il doit avoir une contrepartie en termes de rétribution. Donc, je crois que par rapport à ce qu'André a dit, le point que j'ai retenu, c'est qu'il faut éduquer. Donc, il faut inculquer la culture bancaire, donner beaucoup plus d'informations pour que quelqu'un qui va dans les systèmes de circuit bancaire, dans les systèmes bancaires, qui sache quels sont ses droits, à quoi s'en tenir. Et lorsqu'il ouvre un compte, il doit savoir à quoi s'en tenir. Parce que déjà, moi j'ai écrit, vous savez que j'ai écrit déjà à l'administration, en tant que président du comité, pour attirer l'attention du secrétaire général sur les risques du surendettement de certains fonctionnaires. Je crois qu'il devait également, nous devions donner beaucoup plus d'informations. Il y en a qui sont allés dans les banques à la faveur de la bancarisation et ils ont commencé à s'endetter sans limite. Ils prennent un crédit et puis ils vont prendre des avances et ils se retrouvent déjà dans une situation où ça commence à peser. Donc le poids de l'endettement commence à se faire sentir. Et donc, je crois que le message est bien passé et nous l'avons capté. Nous devons nous efforcer pour une éducation financière encore beaucoup plus rapprochée et plus renforcée. Alors, par rapport à notre ami qui vient de
France de Vienne,
qui vient de réagir, je crois qu'il y a lieu de faire la part des choses. Le gouvernement a fait tout pour soutenir la réforme. Et c'est il a donc soutenu la réforme en prenant en charge les frais de tenue des comptes
pendant trois ans.
Et ce sont des
ressources pour un tas de 2 milliards de francs volés par mois.
2 milliards de francs volés par mois. C'est énorme comme sacrifice pour l'État qui voulait que lorsque les comptes de l'État est débité, lorsqu'il y a un salaire, il y a quelqu'un qui bénéficie d'un salaire de montant X80, l'État voulait avoir le cœur net, c'est rassurer que cet argent qui sort du compte du Trésor arrive à destination. Voilà pourquoi l'État a soutenu cette réforme. Maîtriser les effectifs, être sûr que les agents perçoivent en totalité, en bonne coupure et dans les meilleures conditions. Bien sûr, les gens peuvent dire que, bon, dans certains coins, il se pose encore des problèmes. C'est une réforme petit à petit. On est en train de réguler, de s'améliorer et d'apporter des solutions aux problèmes qui se posent encore. On a évoqué des cas de NP. Je crois que il y a beaucoup de problèmes qu'on ne peut pas poser au même moment. Les non-payés, ce sont des gens qui ne sont pas encore mécanisés. Il y a tout un programme pour les mois de juillet ici. Je vous apprends qu'on a encore mécanisé d'autres enseignants. Si mes souvenirs sont bons, à peu près 125 000 enseignants mécanisés. Donc chaque mois, il y a une programmation qui est faite pour mécaniser progressivement les enseignants. Mais les enveloppes, avant la bancarisation, les enveloppes sont presque restées les mêmes après la bancarisation. Ça veut dire que les gens qui étaient payés à la place de déserteurs, les gens qui étaient payés sous base de postes, on a demandé à ces copés de faire des mises à jour. On a demandé à chaque école de dresser des listes pour que tout cela qui prestait à lieu et place de ceux qui ont déserté puisse être mécanisé et puisse être payé. Donc je crois que le 13, celui qui a payé parlait de les non-payés qui étaient des 3 000 qui sont passés à 13 000, je crois que c'est un faux problème. Donc globalement, je crois que vous avez senti vous-même que dans les réponses, les gens n'ont pas remis en cause la réforme. Dans les réponses, les gens s'accrochent à la réforme et ils veulent tout simplement que les trésors également, en prévision de la rentrée scolaire, fassent un geste. Comme ça, en aide, on a procédé d'une part à cette retenue, mais qu'on procède également à une augmentation, ça pourra leur conforter, ça peut
améliorer la
solution.
Jean-Luc Kayembe, vous êtes le directeur des opérations à la Banque Centrale. Merci d'avoir accepté l'invitation.
Merci.